cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 22 mai 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Il y a plusieurs questions sur l'homme. D'où provient le repos de l'intelligence dans sa recherche de vérité? C'est l'être ou l'unité? Lorsque nous cherchons à connaître une réalité d'une manière vraie, nous expérimentons que cette réalité existante existe dans la diversité. Il faut dépasser cette diversité pour découvrir son principe propre, qui est un. Par l'induction, pour en avoir sa connaissance profonde, d'où vient le repos de l'intelligence? Dans ce cas, ne peut-on pas dire que l'être est premier par rapport à l'un, mais le repos de l'intelligence provient dans ce qui réalise, qui est source de l'unité du réel. Bonne journée. Ça veut dire bon repos. Bien, c'est ni l'un, ni l'être, ni l'un. Le repos de l'intelligence ne peut être que dans la réalité existante. L'ami, Dieu. L'intelligence est au service de la finalité. Nous n'avons pas une finalité abstraite. Allez, l'être et l'un sont saisis par l'appréhension, pas le jugement. Le jugement existentiel porte sur l'ami et sur Dieu. Alors, il y a un certain repos sur l'ami, mais c'est toujours le bien qui repose. Vous ne pouvez pas vous reposer dans l'appréhension. Je n'ai aucun repos dans l'appréhension. Parce que l'appréhension est abstraite. Dans l'abstraction, je ne peux pas avoir de repos. Je ne peux pas avoir de repos sur l'universel. Ça casse. Essayez de vous reposer sur l'universel. C'est un coussin assez rude, hein, l'universel. On ne se repose pas sur l'universel. L'universel est un palier qui me permet de rechercher, qui fait ouvrir à la science. Et l'universel analogique me permet d'aller jusqu'au bout, de découvrir la finalité amitié et la finalité Dieu. Je n'ai pas de repos de l'intelligence. Dans l'intelligence, je n'ai repos de l'intelligence que dans la finalité de la personne. C'est la personne qui se repose. L'intelligence comme telle ne se repose pas. Elle se repose là où la personne se repose. Et je suis heureux de trouver ma finalité. Vous voyez, il n'y a pas de repos sans le bonheur. Impossible. Je ne sais pas si vous reposez sur l'universel. Moi, je ne me suis jamais reposé sur l'universel. L'universel a été un moment où on peut s'arrêter, la définition. Mais c'est très court, la définition. C'est très pauvre. Je ne peux pas me reposer sur la définition. Je ne peux pas me reposer sur l'être analogique. Impossible. Je me repose dans le jugement. Et le jugement me permet d'atteindre la bonté. Je me repose dans la bonté. Vous voyez, c'est très curieux, ça. Les mathématiciens cherchent à se reposer dans l'être mathématique. Y a-t-il un repos dans l'être mathématique? Posez-vous la question. Le mathématicien, par définition, n'a pas de repos. Et c'est ce qui fait comprendre qu'il se jette tout le temps dans la recherche, tout le temps plus loin, dans l'infini. Il n'y a pas de repos de l'intelligence, puisque le mathématicien ne peut pas atteindre la finalité. Il n'y a pas de repos. Il n'y a de repos que dans la fin. Le bien en tant que fin me permet le repos. C'est... Ça, c'est très important, parce qu'au fond, il n'y a que la sagesse qui me permet de reposer. La sagesse pratique, l'amitié, et la sagesse contemplative, Dieu. C'est pour ça que ceux qui ne nient Dieu n'ont aucun repos. Ils ne peuvent avoir aucun repos. Et alors, ils le cherchent dans la jouissance, qui est un faux repos. C'est très très net. L'amitié de jouissance. L'amitié de jouissance nous donne un faux repos, parce qu'on ne se repose pas dans la jouissance. On peut reposer notre corps, notre sensibilité, notre affectivité sensible et passionnelle, mais il n'y a pas de repos dans la passion. La passion veut toujours plus, parce que la passion s'use très vite. Il n'y a pas de véritable repos. C'est très important, ça, vous voyez. C'est pour montrer que toute démarche métaphysique doit se compléter d'une démarche éthique. Éthique au grand sens. Parce que c'est la personne qui se repose. L'intelligence ne peut se reposer qu'au service de l'amour. Et l'amour, c'est la personne. C'est l'acte de volonté, et la volonté est liée à la personne. C'est très important, ça. Mais c'est plus une question d'éthique qu'une question de... Seul le vivant se repose. Seul le vivant se repose. Il y a un repos pour l'homme dans la jouissance, qui est un faux repos imaginaire, parce qu'on n'a pas le courage d'aller plus loin. Alors on est fatigué. Un repos imaginaire dans la jouissance. Il y a un repos réel dans la véritable amitié, mais un repos qui ne peut pas être total. L'amitié permet un repos en Dieu. Et il n'y a qu'en Dieu qu'on se repose. Et qu'on peut se reposer. Parce qu'un repos pour l'intelligence et pour le cœur humain doit être éternel. Un repos passager, momentané, c'est très bien, mais ce n'est pas un repos. Parce qu'on dit, tiens, vite, hein, il ne reste plus que 5 minutes de se reposer. Et par le fait même, il devient relatif. Et dès qu'il devient relatif, il n'est plus en repos. Donc il n'y a de repos qu'en Dieu. Et le repos, au point de vue affectif, au point de vue de l'amitié, n'est que partiel, momentané. Il ne peut pas être complet. Parce que très vite, il glisse vers la jouissance. L'être se dit de multiples manières. Tout à fait d'accord. Donc c'est bien de commencer comme ça. Donc l'un doit se dire aussi de multiples manières, en tant que propriété de l'être. Tout à fait d'accord. L'un transcendantal, pas l'un transcendantal, propriété de l'être. Mais on ne peut pas comprendre l'être que dans la lumière de la substance et de l'acte. Ah non, je ne dirais pas ça. C'est l'être qui nous fait comprendre la substance. C'est l'être qui nous fait comprendre l'acte. C'est l'inverse, hein. Ne dites pas que c'est la substance qui fait comprendre l'être. Parce qu'alors, le principe d'identité associé ne serait plus présent dans toute la recherche philosophique. L'être est saisi avant la substance. Et la substance est saisie comme principe d'être. Voyez ? Donc, voyez bien, l'intelligibilité touche l'être. Et par l'être, touche la substance. Il y a un ordre. Donc, l'intelligibilité, c'est l'être. Alors, voyez, il faut tout de suite saisir le point délicat. Mais on ne peut pas contempler l'être que dans la lumière de la substance. On ne peut pas comprendre l'être que dans la lumière de la substance. Non. C'est grâce à l'être que je saisis la substance. Ce n'est pas grâce à la substance que je saisis l'être. Heureusement, du reste, je saisis l'être avant. Et puis petit à petit, je saisis la substance. Peut-on donc affirmer que l'unité de l'être pourrait être vue de deux manières ? L'unité de la substance, toute réalité est une. D'où vient, après, l'autonomie substantielle comme exercice de cette unité et mesure de mon intelligence en tant que sujet. C'est la substance en tant qu'elle subsiste, en tant qu'elle existe, en tant qu'elle revient à l'être. Alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a une unité particulière qui est celle de la substance. Vous voyez, on va le voir ça. L'unité de l'acte, toute réalité est ad. Non. L'unité de l'acte, toute réalité est ad. L'acte n'est pas ad. L'acte est substantiel. L'ad substantiel, c'est dans la très sainte Trinité. J'élabore ça, mais pas au point de vue philosophique. Vous n'avez jamais un acte substantiel. Vous n'avez jamais un acte qui est acte. Vers quelque chose, non. L'acte est substantiel. Je découvre la substance comme première, comme ce qu'il y a de premier selon la cause formelle, je découvre l'acte comme si premier selon la cause finale. L'acte présuppose la connaissance de la substance. Donc tout acte, acte d'être, est substantiel. S'il est acte d'être, au sens premier, vers quelque chose ayant comme exercice l'unité de la communication avec un autre, un ami ou Dieu, et mesure de mon intelligence en tant qu'essai. Ah. Je vois ce que vous voulez dire. c'est que vous prenez le point de vue de la finalité et que l'acte est en vue de la fin. Alors, distinguez les deux, energeia et entelekeia. Que entelekeia soit ad, oui. Que energeia soit ad, non. Vous voyez, cette distinction d'Aristote est capitale, parce que l'amour est ad, oui, mais entelekeia, c'est la bonté qui est acte, et la bonté attire. Donc, attirer quelqu'un, c'est pas être relatif à lui, c'est être celui qui est capable de l'attirer à nous. C'est pas la même chose. Être attiré par quelqu'un, ad, c'est entelekeia. C'est pas energeia. Donc, il faut préciser là que l'acte est entelekeia, c'est sûr, mais il est avant tout energeia. L'acte d'être, l'acte de l'opération est ad, mais l'acte d'opération, l'opération vitale, c'est l'acte dans la vie, c'est pas l'acte d'être. L'acte dans la vie est toujours entelekeia, en vue de l'acte de l'être qui est energeia. Là, il y a à préciser, vous voyez. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, on va le voir après. Il faut d'abord saisir ce que c'est que l'un, pour saisir ensuite les modalités de l'un. Au point de vue philosophique, je saisis d'abord les diversités de l'unité. Bon, c'est ce que nous avons commencé à faire. Prenez l'expérience de l'un, très simplement. Bon, l'œuvre d'art. Celui qui a lu Boileau sait très bien que l'unité est nécessaire pour une œuvre d'art. Et que la première chose qu'on voit comme critique d'art, c'est montrer que cette œuvre n'est pas une. Elle est boiteuse. Et la beauté s'en ressent. C'est intéressant de voir que, des vrais, l'unité dans l'œuvre d'art est capitale. D'une certaine façon, du côté artistique, l'un passe avant l'être. Parce que quand vous voyez une œuvre d'art, vous regardez son unité. Vous ne regardez pas son être. Une statue de bois. Bon, oui, c'est très intéressant qu'elle est de bois. Mais c'est pas ça que je regarde surtout. Je regarde sa beauté, son unité. Une statue de bronze. C'est pas le bois et le bronze qui donnent le caractère propre de la beauté de l'art. Alors, oui, c'est ça qui est très curieux. C'est que dans l'œuvre d'art, l'unité est avant l'être. Une œuvre d'art est premièrement une. Et je fais son unité. Oui, je ne fais pas son être. L'être est présupposé dans la matière. Une statue de bois. Le bois est présupposé, le bronze est présupposé, l'acier est présupposé, l'ivoire est présupposé. Donc, c'est pas ça qui fait l'œuvre d'art, c'est la forme que je donne à ce bois, la forme que je donne. Et cette forme artistique est une. Alors, du côté de là, c'est très important à noter ça, parce que ça fait comprendre pourquoi les philosophies de type artistique, comme Platon, qui partent de l'inspiration plus que de l'expérience. C'est l'inspiration qui domine tout, et non pas l'expérience. Ces philosophies mettent l'un avant l'être. Pourquoi Platon met l'un avant l'être ? Ah, l'artiste. L'artiste cherche plus l'unité que l'être. L'unité de la forme. C'est ça qu'il cherche avant tout, et plus que tout. Bon, il y a une première expérience de l'un, et c'est vraiment la première expérience. Et cette première expérience de l'un met l'un avant l'être. L'un de la forme que j'ai, que je fabrique, que je fais. Vous voyez, l'homme peut faire une œuvre une dans une œuvre artistique. Mais il ne fait pas son être. Il mendie l'être par la cause matérielle. La cause matérielle dans une œuvre artistique, c'est son être. Statue de bois, statue de bronze, c'est son être. Tandis que son unité vient de l'idéal de l'artiste. Son unité est faite. Est composée, et elle est réalisée. Vous voyez, là vous avez le jeu de l'être et de l'un, et dans l'œuvre d'art, l'un est avant l'être. Et Boileau avait raison de dire ça, que dans toute œuvre d'art, je cherche premièrement l'unité. Et quand je ne découvre pas l'unité, alors je vois. Cette œuvre d'art est une œuvre qui exprime la dissension, la guerre, la division. Elle est violente. Une œuvre d'art où il n'y a plus d'unité est violente. Elle est violente pour mon intelligence et pour mon cœur. Seconde expérience dans l'ordre éthique. Dans l'ordre éthique, j'ai l'expérience de l'unité dans l'amitié. L'amitié demande l'unité dans l'amour. Et elle est très exigeante de l'unité dans l'amour. Parce que toute dissonance d'unité, toute division brise l'amitié. Ce n'est pas un signe profond de l'amitié quand Abraham dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Ceci, c'est un signe de la désunion. Disunion acceptée pour qu'il reste quelque chose de l'unité. Situation limite. La situation limite, on accepte certaines oppositions pour sauver quelque chose de l'unité. Quand vous ne pouvez pas vous entendre en vie commune avec quelqu'un, dit c'est pas la peine de continuer. Et plus on continue, plus on sera divisé. Il vaut mieux se séparer et rester unis dans le désir d'une recherche. Nous faisons toujours des choses comme ça. Quand on voit une communauté où il y a une opposition violente, il y a un frère qu'on ne peut pas supporter. Ça peut arriver, ça. Ils sont tous saints, mais la sainteté n'est pas supportable. Il vaut mieux dire ça, le démon est insupportable, la sainteté est insupportable. Alors quelquefois c'est le démon et quelquefois c'est la sainteté. Je vois bien qu'on n'arrivera pas à s'entendre en vivant la vie commune. Alors à ce moment-là, si on est sage, on accepte de se diviser. Tu vas à droite et je vais à gauche. Pour maintenir une certaine union. Parce que si on continue de se disputer tout le temps, à la fin, ça touchera les choses tout à fait essentielles. Il n'y aura plus aucune unité. Oui. Donc, solution d'attente. On accepte une certaine division pour sauver l'unité. Et ça, c'est très... Ça montre combien l'unité est essentielle à l'amitié. Pour maintenir une certaine unité, je fais de gros sacrifices acceptant les divisions. Quand on est sage, on comprend ça. Parce qu'il y a du plus et du moins. Il y a des unités secondaires et des unités essentielles. Quand on se dispute pour des unités secondaires, on risque d'attaquer l'unité essentielle. Alors, j'ai une expérience de l'unité dans l'amitié. On est un dans l'amour réciproque. Et on désire être un dans cet amour réciproque. Je t'aime, toi, dans ce qu'il y a de meilleur en toi. Tu m'aimes, moi, dans ce qu'il y a de meilleur en moi. Et nous sommes un dans cet amour. L'amitié recherche l'unité dans l'amour. Voyez, l'œuvre artistique, je recherche l'unité dans la forme idéal dans laquelle, dans l'idéa qui dirige mon activité artistique. Je cherche l'unité dans l'amour, parce qu'il s'agit de l'amour d'amitié. Et je veux à tout prix cette unité dans l'amour. Je fais tout ce que je peux pour maintenir cette unité dans l'amour. Si je suis obligé de jeter du lest, je le jette, parce que la situation devient pénible, très pénible. Alors je jette du lest pour sauver ce que je peux sauver d'unité. Je crois que là nous avons deux expériences typiquement tout à fait différentes. L'unité artistique, l'unité affective. Constamment dans notre vie, le problème s'oppose de l'unité affective, de l'unité artistique. L'unité artistique dans ce que nous faisons, l'unité affective dans ce que nous aimons. Et on maintient, on veut maintenir cette unité au niveau personnel. Ça touche la personne. Vous voyez, c'est intéressant parce que on voit que dans l'œuvre artistique, l'unité est antérieure à l'être. Est-ce que dans l'amour, j'ai la même expérience? Est-ce que l'unité que je souhaite dans ma vie affective avec l'ami, que nous puissions être un, vraiment. Est-ce que cette unité est avant l'être? Non. Elle implique l'être, parce que l'ami est une réalité existante. Et c'est l'unité avec mon ami, dans son amour, que je cherche. Donc, cette unité au point de vue affectif, au point de vue éthique, n'est pas antérieure à l'être. Elle implique l'être. Je ne peux pas séparer. Pourquoi ? Parce que c'est une unité qui provient de l'amour. Et l'amour regarde le bien. Et le bien est essentiellement uni à l'être. Donc cette unité présuppose la réalité de l'ami. Il n'y a que dans l'œuvre artistique où je saisis l'un comme antérieur à l'être, comme autre chose indépendant de l'être. L'être est pris d'une façon matérielle. Tandis que dans l'amour d'amitié, l'être n'est pas pris d'une façon matérielle, puisque ça regarde la personne. Et la personne, essentiellement, existe. Ça regarde la bonté de la personne, qui essentiellement existe. Elle ne peut pas être idéale. Quand j'idéalise l'amitié, alors je mets l'unité avant la personne. Ça existe, hein. Il y a des personnes qui cherchent avant tout l'unité. Je t'en prie, je suis prêt à faire tous les sacrifices, mais que nous restions un. Vous voyez, on tombe dans une espèce d'idéalisation qui n'est plus vraie. Parce que dans l'ordre pratique, dans l'ordre de l'amour, l'unité implique l'être. Par l'amour et dans l'amour. L'amour ne peut pas se séparer de la réalité. Vous ne pouvez pas aimer un idéal autant qu'une personne. Quand vous êtes conscient que votre amour porte sur un idéal et non pas sur la personne, vous faites une fameuse chute. Et ça existe souvent, ces choses-là. Deux personnes s'aiment, puis elles sont obligées de se séparer. L'une va en Amérique, l'autre reste en Europe. Et alors, elles continuent de s'aimer, en s'écrivant. Mais il n'y a plus le contact réel. Et alors, on idéalise. Séparer deux amis, on idéalise. Et l'unité gonfle, indépendamment de la réalité de la personne. Et quand on retrouve la personne, on dit, mais c'est pas ça du tout. Vous voyez, j'ai idéalisé la séparation, le fait que je ne pouvais pas voir, ça idéalisé. Le fait que je la vois régulièrement, alors je ne peux pas idéaliser. Parce que je dérape. Je reviens tout de suite. Je vois la limite. Je l'aime, mais mon amour est limité. Donc, il y a une expérience type, très particulière, de l'unité dans l'amour intentionnel, qui est une unité dans l'amour. Dans l'amour spirituel, dans le choix, qui regarde la personne. Y a-t-il une unité politique ? Y a-t-il une expérience au niveau politique de l'unité ? Au niveau du bien commun ? C'est vrai que je crois que toute expérience politique repose sur les personnes, mais avec l'intermédiaire du bien commun. Dans l'amour d'amitié, le bien commun n'intervient pas comme métaxu pour l'amitié. Personne à personne. Tandis que d'un point de vue politique, c'est le propre de la politique. Ce n'est plus personne à personne, il y a la médiation du bien commun. Oui, chaque personne politique annonce un programme en vue du bien commun. Vous serez tous enrichis si vous votez pour moi. Je diminuerai les impôts, je diminuerai... Ça se fait comme ça, regardez les programmes. Sans faire beaucoup de politique, vous voyez tout de suite que ce n'est plus une relation de personne à personne. La personne devient médiatisée, donc limitée par son programme de bien commun. Le bien commun vous empêche d'être personnellement ce que vous êtes. Et vous devenez relatif à ce bien commun. Et alors là, vous avez une certaine expérience, mais tout à fait seconde. La politique ne nous donne pas l'expérience type de l'unité. Surtout quand les pays deviennent très évolués. Plus ils sont évolués, moins ils sont gouvernables. Et à un moment donné, chacun tire comme il veut avec les différents partis. Les partis politiques sont des divisions du point de vue politique et donc empêchent le véritable bien commun d'exister. Vous voyez, ça, tout de suite, quand un parti l'emporte sur l'autre, il met les petits copains, indépendamment de leur qualité, celui qui fait partie passe avant vraiment les capacités vraies. Voilà ça, des exemples courants et constants. Alors, à ce moment-là, on assiste à des injustices. Le parti l'emporte sur le tout. Et quand le parti l'emporte sur le tout, vous avez un schisme au point de vue politique. Et vous n'avez plus une véritable politique. Donc, vous voyez, au fond, quand la politique est très évoluée au point de vue démocratique, vous avez l'expérience des partis plus que du tout. Et donc, vous n'avez pas du tout l'expérience de l'unité. Vous avez l'expérience des divisions, des oppositions, des luttes. Et votre politique n'est plus orientée vers un bien commun, elle est orientée vers un bien partiel. Et donc, il n'y a plus véritablement expérience de l'unité. Alors, qui devrait, si on était vraiment homme politique, avoir l'expérience de l'unité du bien commun. Le bien commun exige l'unité. Mais le bien commun, c'est le bien du tout. Il ne peut pas y avoir un bien commun partiel. Ce n'est plus le bien commun. Alors, c'est le bien du parti. Alors, dites ouvertement que c'est le bien du parti. Je gouvernerai pour le parti. Je ramènerai la France à tel parti politique. Et tout ce qui n'est pas du parti politique doit braire et attendre la succession d'un autre. Vous voyez, au fond, la division l'emporte sur l'unité. Et la division l'emportant sur l'unité, ça fait que il n'y a plus de politique au sens propre du mot, il y a des luttes. Le pays est divisé. Et il n'y a plus d'unité. L'expérience de la division, c'est l'expérience de la lutte. Et ça nous fait rêver à autre chose. On rêve à l'unité. Après, vous avez l'expérience de l'unité d'un point de vue spéculatif au niveau philosophie de la nature. Alors là, vous voyez, l'unité va se prendre par le point de vue des principes. La nature unifie toute une série d'individus qui ont la même nature. Ça se voit pour les animaux, ça se voit pour les plantes, ça se voit pour l'homme. Il y a une unité dans la connaissance de l'homme, de la nature humaine. Mais cette unité-là est abstraite, puisqu'elle vient du principe. Ce n'est pas une unité réelle. Alors, cette unité que vous avez du côté de la nature, c'est la nature humaine, puisque c'est l'animal que je préfère, c'est l'homme. Et c'est dans la nature humaine, par rapport à la nature humaine, que je peux comprendre qu'il y a quand même quelque chose d'homme chez tous les hommes. Et ce quelque chose d'homme chez tous les hommes, j'essaie de comprendre ce qu'il y a d'homme dans tous les hommes pour le respecter chez tous les hommes. L'unité de la nature qui s'oppose, du moins qui s'oppose, qui se distingue de l'unité de la personne. L'unité de la personne, je la saisis au point de vue éthique, l'unité de la nature, je la saisis au plan philosophique. L'unité du vivant, l'unité de l'être. J'ai expérience différente de l'unité de l'intuition, mais du vivant et de l'être. Mais toutes ces unités sont abstraites. Elles sont à partir de l'universel, univoque, la nature, analogique, le vivant et l'être. Je sais bien que cette unité, elle ne se découvre que dans une certaine abstraction. Je peux saisir l'unité de la nature en élaguant, en laissant tomber tout ce qu'il y a de particulier dans chaque individu. Ah, alors à ce moment-là, je comprends que j'ai deux expériences de l'unité. L'expérience de l'unité provenant de l'universel. Cette unité n'existe que dans ma raison. C'est l'unité qui existe dans ma raison. Conçois ce que c'est que la nature humaine et je vois qu'il y a quelque chose d'un chez tous ceux qui possèdent cette nature humaine. Et cette unité-là, je la distingue de l'unité de l'individu. L'individu qui existe, il existe dans une unité. J'ai donc tout de suite, au point de vue spéculatif, deux types d'unités. L'unité qui repose sur l'universel, univoque, l'unité du genre, l'unité de la différence spécifique, l'unité des accidents, l'unité des propriétés. Je vois que ma connaissance univoque possède des dimensions différentes. Et chaque fois, il y a l'unité. L'universel est un. Oh. Il est un, l'universel. Mais il est un par l'intelligence, par ma connaissance. Il est un provenant de la grande diversité des individus. Il est un dans tous ces individus. Et donc, il est lié à cette unité des individus. Cette unité de l'universel est une unité que je forme moi-même dans mon intelligence. Elle reste objective. Elle n'est pas l'unité de l'art. Elle est une idée qui s'impose dans la réalité que j'expérimente. C'est une idée qui s'impose à moi. Mais elle est quand même formelle que grâce à l'abstraction, que grâce à ma connaissance. C'est une idée qui fondamentalement existe dans la réalité, mais qui n'est formelle que par ma connaissance. Cette unité-là se distingue toujours de l'unité de l'individu. Chaque individu a son unité, plus ou moins forte. Parce que si je suis malade, c'est un coup dur pour mon unité physique, corporelle. Si je suis pécheur, c'est un coup dur pour mon unité affective. Si je suis errant sans connaître la vérité, mon intelligence me l'accompagne et cherche la vérité dans tous les sens. Vous voyez que l'unité individuelle est complexe. Vous avez l'unité de votre corps, si vous êtes intègre, vous êtes de l'esprit, l'unité du cœur. Et puis, vous avez l'unité universelle. Vous voyez donc que l'expérience de l'unité est extrêmement variée. Tout ça, c'est l'unité. L'universel, c'est l'unité. Et l'individu, le singulier, il a son unité d'exister. Il existe dans son corps et dans son âme. Et la unité physique n'est pas son unité spirituelle. Il y a des gens qui sont complètement malades et qui, par le fait même, n'ont plus l'unité physique. La maladie vient toujours diminuer l'unité physique, l'unité biologique. Nous voyons donc et nous constatons que l'expérience de l'unité est extrêmement variée. Et cependant, il y a toujours quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun que nous allons essayer de saisir.